Cet automne, politiques, experts, journalistes, artistes et militants fait encore une fois la Saint-Badinter. Le gouvernement socialiste aurait aboli la peine de mort le 9 octobre 1981. En fait, les peines s'allongent et se multiplient à l'infini, et on meurt toujours plus derrière les murs, quand la peine de mort ne prend pas la forme d'une exécution sommaire par les flics. Ça ne donne pas envie de faire la fête, plutôt de faire sa fête une bonne fois pour toutes à ce système qui enferme de plus en plus et de plus en plus souvent. En 2001, des prisonniers dénonçaient déjà la supercherie de l'abolition de la peine de mort et l'obscénité de la célébration de son 20e anniversaire. Leurs paroles avaient été relayées à l'extérieur pour dévoiler ce qui se cachait derrière l'humanisme de la mesure. Une refonte méthodique et délibérée du système pénal français. Ce n'est pas une vieille star du barreau passée à la politique qui a mis un terme à l'utilisation de la guillotine par l'État français. Cette fameuse abolition n'était qu'une étape dans un processus dont le but est toujours d'éliminer. Pour protéger la société sans pour autant passer pour des tueurs, il suffisait de remplacer la peine de mort par des peines de plus en plus nombreuses, de plus en plus longues et qui, bien des fois, vont jusqu'à la mort. L'objectif est bien d'enfermer à vie et les droits de l'homme sont un paramètre comme un autre à intégrer dans la balance des coûts. Par exemple, en faisant semblant de mettre la sécurité des personnels et les droits des prisonniers sur le même plan. Ce qui s'est passé en 10 ans, concrètement, c'est des constructions de prisons. Le discours officiel les présente toujours comme un remède à la surpopulation carcérale et un moyen d'améliorer les conditions de détention. Évidemment, il n'en est rien. On voit bien que les nouvelles prisons seront bientôt aussi bourrées que les anciennes, puisque les juges continuent à condamner toujours plus. Et lorsque l'horizon européen de l'encellulement individuel dans les prisons high-tech est ponctuellement atteint ici ou là, les témoignages ne manquent pas pour montrer que c'est le début d'un autre enfer, celui de la privation sensorielle et de la rupture de tout lien social. Ce qui s'est passé en 10 ans, c'est aussi une avalanche de lois pour remplir ces prisons. La création de nouveaux délits induit directement l'allongement des peines. Tout est revu à la hausse. Un juge qui colle une amende pour avoir fumé une cigarette ou téléphoné au volant n'aura aucun mal à condamner à 3 ans de prison pour vol simple et à des peines éliminatrices de 30 ans pour échange de coups de feu avec la police. Plus les peines prononcées se multiplient, plus elles s'allongent. L'allongement d'une peine particulière a un effet sur la pénalisation de toutes les infractions. Loin d'offrir un échappatoire, les peines de substitution sont là pour enfermer toujours plus et par tous les moyens. Les travaux d'intérêt général ne font sortir personne de prison, puisqu'ils remplacent de simples amendes. Le bracelet électronique permet de condamner à la prison hors les murs des personnes qui auraient pris du sursis, ou pire, de soumettre des condamnés à un suivi socio-judiciaire strict pour les contraindre au travail et d'étendre la peine au-delà de la durée d'emprisonnement prononcée. De la lutte contre la violence routière à la pénalisation de l'évasion, le système pénal se donne les moyens de punir toujours plus. Les juges se plaignent de l'encombrement des tribunaux, mais ils n'ont jamais joui d'un tel pouvoir de nuisance. Le fait de condamner quelqu'un à 20 ans d'enfermement ne choque quasiment plus personne. Le temps économique a tout avalé. 20 ans, le temps d'un crédit immobilier. Cette comptabilité insensée reflète les rapports mortifères qui ont cours dans la société à cause de l'argent. Tout a un prix et tout le monde est à vendre. Suivant cette arithmétique universelle, selon le tarif, on paie de son temps, c'est-à-dire de sa vie, des vies entières à crédit ou en prison, selon le chemin emprunté. Une voiture vaut 50 crédits ou 3 ans de prison. Quelques milliers d'euros valent une vie de travail ou 30 ans de prison. Les macabres tables de calcul de la loi et de l'économie font défiler leurs colonnes de chiffres jusqu'à l'épuisement. Rien n'est oublié. L'économie et le droit ont horreur du vide. On peut sans rougir préférer sa voiture à la vie d'un homme. En fait, ce sont des vies entières qui sont arrachées aux enfermés et à leurs proches, seuls à même de témoigner de ravages qui ne se mesurent pas, de mutilations qui le plus souvent se taisent, parfois se chuchotent quand elles ne se crient pas dans un dernier acte désespéré. S'il est rare que des écrits ou des révoltes de l'intérieur s'en prennent aux peines elles-mêmes, c'est peut-être qu'il est difficile, voire dangereux pour un prisonnier de se pencher sur l'absurdité de sa peine. Il risque de plonger rapidement dans une logique du rien à perdre, de la vie ou de la mort. Un mois, une année, une décennie, perpétuité. Chaque prisonnier tente d'effacer le trop-plein de ce temps vide, de tuer le temps, mais c'est le temps qui le tue.
La prison, c'est un peu la liberté totale donnée à une poignée de laquais d'expérimenter leur cruauté grandeur nature sur des humains privés de liberté, comme un enfant triturant une poupée ou le cadavre d'une grenouille avec sadisme. Dans le rôle du gamin sadique,
Maton, architecte, ingénieur, constructeur, psychiatre,
juge. Dans le rôle de la grenouille disséquée.
Ce bon vieux Tolar. Ce bon vieux Tolar à qui il faut bien faire comprendre qu'il est une grosse merde. Qu'il n'existe pas pour ce monde, ni pour lui-même. Le même bon vieux Tolar qu'on est toujours prêt à envoyer crever pour liquider une centrale nucléaire en fusion ou ramasser des galettes de fioul sur les plages souillées par les marées noires. Celui qui construit dans un champ de coton moderne les sacs Vuitton que Madame la juge aime tant porter sur son avant-bras au bal de Noël du barreau de Paris.
En fait, il est clair que l'enfermement carcéral n'a qu'un but, casser le bonhomme. Il est fréquent d'entendre des éducateurs affirmer qu'il faut briser leur orgueil en le mettant devant leur échec, sans parler des discours de quelques psychothérapeutes sur la nécessité de leur faire intégrer la loi, en les forçant à respecter tout règlement, en tendant n'importe quelle injonction d'un surveillant. Il existe un moyen simple d'obtenir du détenu sa soumission. Le prisonnier n'a qu'une seule raison de vivre. Sortir.
Mais
les autorités ne le laisseront sortir que lorsqu'elles le jugeront bon, quand il aura payé les frais de justice, quand il aura montré patte blanche, quand il se sera écrasé.
Comment concevoir passer toute sa vie, et ce à 22 ans, entre des murs qui vont se rapprocher de plus en plus avec le temps. L'arbitraire du monde carcéral, les envies suicidaires qui vont se succéder, les fouilles à corps, les coups, les insultes, les frustrations, les humiliations, l'avilissement, les haines qui s'accentuent, les chaînes, les mitards. Les humeurs des gardiens, leur besoin de se satisfaire sur nous, leur sarcasme, leur provocation. Les conflits avec les autres détenus, les mensonges, l'hypocrisie et dissimulation en tout genre, la parano, sa misère et celle des autres, les odeurs, les bruits étouffés, les cris, les pleurs, la folie qui guette, la libido qui fout le camp, la masturbation, la bouffe, les maladies, le morbide, les tentations, les cauchemars, les nuits blanches, les déceptions, les amitiés balourdes, les trahisons, l'indifférence amplifiée, l'ostracisme, le racisme des matons ou des détenus, la peur au ventre, la honte, les envies de chier, le mal de dents, les maux de tête, les cachets, le pet, la déraison, l'abandon, l'oubli de ce qu'on a été, les revanches avortées, les colères, les punitions, l'infantilisation, l'irresponsabilité, l'assistanat, l'enracinement végétal, les balades en fourgon, les menottes, les instructions, le jugement, les bagarres, l'accusation, les pensées morbides, les 100 000 pas, les regards indiscrets, les illusions d'évasion, le soir, la nuit, la pénombre, l'attente. Combien de sensations ai-je oubliées ? S'apercevoir que se dessine un tel avenir ne demande-t-il pas de réfléchir sérieusement à sa mort ? Qui peut s'en soucier ? Il s'agit de moi et j'en parle à ma façon, en souffrant de ne plus rien regretter, de me dire qu'est-ce qui peut bien m'arriver après tout ça ? J'ai envie malgré tout, et comme le reste ne le regrette pas. Ainsi, c'est donner raison à ceux qui pensent que la peine de mort est inhumaine et contraire à la vie. Pourtant, messieurs, dames, il y a au fond de vos prisons des individus qui auraient souhaité la condamnation suprême pour ne plus vivre le calvaire de se réveiller chaque matin, les yeux bloqués par les barreaux, l'œil ton rivé sur leur cul et les piteuses érections. C'est chaque jour s'enfoncer un peu plus en soi, et si on n'y fait pas gaffe, c'est se bouffer le moral, pour n'être qu'un légume qui s'alimente et se vide, pour découvrir finalement qu'on n'est plus rien. Qu'y a-t-il de pire que cela ? N'être rien, ne servir à rien et en avoir conscience. C'est donner un argument de poids à tous ceux qui étaient contre l'abolition de la peine de mort, de savourer leur erreur d'avoir pensé cela. L'homme, à se recroqueviller, finit par puer de l'intérieur. Mortifère son peine.
À ceux de l'extérieur osant affirmer que la peine de mort est abolie, silence. On achève bien les chevaux. Nous, les emmurés vivant à perpétuité du centre pénitentiaire le plus sécuritaire de France, dont aucun de nous ne vaut un papon, nous en appelons au rétablissement effectif de la peine de mort pour nous. Assez d'hypocrisie. Dès lors qu'on nous voue en réalité à une perpétuité réelle, sans aucune perspective effective de libération à l'issue de notre peine de sûreté, nous préférons encore en finir une bonne fois pour toutes que de nous voir crever à petit feu, sans espoir d'aucun lendemain, après bien plus de 20 années de misère absolue. À l'inverse des autres pays européens, derrière les murs gris de ces prisons indignes, la République des Lumières et des Libertés de 2006 nous torture et nous anéantit tranquillement, en toute apparente légalité, au nom du peuple français, En nous assénant en fonction du climat social, ou à la faveur d'un fait divers ou encore d'échéances électorales, mesure répressive sur mesure répressive, sur le fondement du dogme en vogue du tout sécuritaire, érigé en principe premier, supplantant tous les autres.
Qu'on se rassure, de nos jours ici, même les mauvaises herbes ne repoussent plus. Il n'y a que le noir et le désespoir, de surenchère en surenchère. La machine à broyer l'homme a pris impitoyablement le pas. À quoi servent les peines de sûreté qu'on nous inflige, quand une fois leur durée dûment purgée, on n'a aucun espoir de recouvrer la liberté? Depuis l'année 2000, à la loi Perben II de 2005, on a fait mine de s'appliquer à légiférer en instituant de nouvelles juridictions de libération conditionnelle. Seulement, comme hier le ministre de la Justice, les juges d'aujourd'hui, à l'oreille de l'administration, nous opposent, refus sur refus, nous vouant à des durées de détention à la Lucien Léger.
Pourtant, sur la finalité de la peine, l'État français, admettant que nous avons vocation de sortir un jour et s'inscrivant dans le cadre des recommandations du Conseil de l'Europe, a posé pour principe s'étendant aux longues peines et aux 700 condamnés à perpétuité que l'exécution des peines privatives de liberté a été conçue non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer sa réinsertion. En réalité, tout est au châtiment. Combien d'entre nous, du moins pour ceux qui ne sont pas décédés depuis, ont déjà purgé plusieurs années au-delà même de leur peine de sûreté de 18 ans, sans se voir présenter, à ce jour, une réelle perspective de libération? Après de telles durées de prison, tout rescapé ne peut que sortir au mieux sénile et totalement brisé. En pareil cas, qui peut vraiment se réinsérer socialement? En fait, pour toute alternative, comme avant 1981, ne nous reste-t-il pas mieux à trouver plus rapidement dans la mort notre liberté?
De surcroît, pour nous amener à nous plier à ce sort d'enterré vif, on nous a ces dernières années rajouté murs, miradors, grilles en acier et maintes autres contraintes. Le tout pour faire taire toute velléité, assortie de commandos de surveillants casqués, armés et cagoulés, à l'impunité et aux dérives vainement dénoncées ça et là dans l'indifférence générale. N'en croyez rien. Il y a ici une place pour vous et pour vos fils. C'est encore plus vrai que jamais, à l'heure où l'on préfère supprimer à tour de bras dans les écoles du pays bien des postes d'instituteurs et d'éducateurs pour en lieu et place miser sur l'embauche de toujours plus de nouveaux policiers et surveillants de prison et en érigeant de nouvelles prisons et autant de quartiers haute sécurité. Aussi, parce qu'une société dite démocratique ne devrait pas se permettre de jouer ainsi avec la politique pénale visant à l'allongement indéfini des peines. À choisir à notre mort lente programmée, nous demandons à l'État français, chantre des droits de l'homme et des libertés, de rétablir instamment pour nous tous la peine de mort effective. Clairvaux, le 16 janvier 2006.
Sous-signé les susnommés ci-après du mouroir de Clairvaux. Abdelhamid Akar, André Généra, Bernard Lasselin, Patrick Perrochon, Milivoj Miloslavevitch, Daniel Aertz, Farid Tahir, Christian Rivière, Jean-Marie Dubois, Tadeusz Tutkaj.
Car tous les jours sont à peu de choses près les mêmes. Tout est à heure fixe. Distribution de courrier, de la presse, gamelle, promenade, distribution du pain, activité s'il y a. Et le détenu finit par se faire sa journée type, qui va répéter au loisir des juges.
Pour se rendre compte de cela, il suffit d'imaginer que l'on se réveille chaque jour dans la journée précédente, et qu'on la recommence, de bout en bout, jusqu'à finir par l'optimiser de A à Z. Cela rend fou très rapidement, et on perd assez vite toute notion de réalité.
Pour revenir à des considérations un peu plus générales, je me demande bien comment on pourrait imaginer en finir avec la prison tout en laissant le monde extérieur intact. Penser la prison de façon séparée est pour moi une erreur fatale, car une bonne partie de la banane horreur qui y prolifère provient directement de l'extérieur. La prison n'est qu'une exacerbation de la survie qui est déjà notre vie à l'extérieur.
Dehors aussi, il faut avoir ses papiers pour circuler. Dehors aussi, nous sommes fichés et contrôlés. Dehors aussi, les pauvres se font la guerre entre eux plutôt que de s'associer pour abolir leurs conditions. Dehors aussi, nous sommes parqués comme du bétail et nous dormons là même où nous déféquons. Barbelés, balances, verrous, portes blindées, matons, grillages, barrières, frontières existent des deux côtés du mur.
La prison existe parce qu'une société a besoin d'elle pour injecter la peur qui la maintient. Et je ne vois pas bien comment on pourrait s'attaquer à la prison sans en finir avec le monde qui l'a produit et en a besoin, et vice-versa. Je ne vois pas bien non plus à quoi peut servir de lutter pour des prisons plus humaines ou des alternatives à la prison quand le réel problème transcende si largement la simple question de la prison et se retrouve dans tous les aspects de la société, le principe même de domination et d'autorité. Nous voulons recouvrer notre liberté, mais dehors non plus, nous ne sommes pas libres.
Il nous paraît important de parler de la prison, de sortir les courriers des détenus qu'ils souhaitent et de les diffuser, de poser socialement la question de la prison, que personne ne puisse l'éviter, ni dans les rues, dans les discussions, ni à table, ni au café, ni au boulot, partout. Il faut briser l'isolement. Et aussi diffuser l'attaque contre ces structures, critiquer en acte le business de l'enfermement, partager publiquement tout ce qui peut aider un détenu motivé à s'évader, paralyser les infrastructures carcérales et démasquer les collabos qui participent d'une façon ou d'une autre au système carcéral. Ils sont flics, juges,
journalistes,
constructeurs,
ingénieurs, architectes,
politiciens, scientifiques, matons,
investisseurs, philosophes,
contrôleurs des prisons.
Il faut les livrer en pâture à la colère.
Il faut les livrer en pâture à la colère.
Qu'il ne soit plus anodin de participer à l'enfermement concentrationnaire de millions de gens à travers le monde, ni d'en faire la propagande ou de le réformer pour mieux le pérenniser.
Que la haine de la barbarie carcérale se dirige contre ceux qui en sont responsables ou qui la défendent. Et que les murs qui séparent les prisonniers du reste des gens soient détruits, dans nos têtes comme dans la réalité. L'un ne va pas sans l'autre.
Sentir ta tête exploser, sentir ta boîte crânienne sur le point d'éclater en morceaux, sentir ta moelle épinière te remonter au cerveau à force d'être comprimée, sentir ton cerveau comme un fruit sec, se sentir sans cesse et inconsciemment et comme électriquement téléguidé, sentir qu'on te vole tes associations d'idées, sentir ton âme pisser de ton corps comme si tu n'arrivais plus à fixer l'eau, sentir la cellule bouger, tu te réveilles, tu ouvres les yeux, la cellule bouge. L'après-midi, quand il y a du soleil, ça s'arrête tout d'un coup. Mais elle bouge toujours. Tu n'arrives pas à te dépêtrer de cette sensation. Impossible de savoir si tu trembles de froid ou de fièvre. Impossible de t'expliquer pourquoi tu trembles, pourquoi tu gèles. Pour parler de façon simplement audible, il te faut faire effort. Il faut presque hurler, comme pour parler très fort. Te sentir devenir muette. Impossible de te rappeler le sens des mots, sinon très vaguement. Les sifflantes, supplice intolérable. Les gardiens, les visites, la cour, réalité de celluloïdes, maux de tête, flash. Ne plus maîtriser la construction des phrases, la grammaire, la syntaxe. Si tu écris au bout de deux lignes, impossible de te rappeler le début de la première. Sentir que tu te consumes au-dedans. Sentir que si tu étais libéré, dire ce qu'il en est, ce serait exactement comme jeter de l'eau bouillante à la gueule des autres et les ébouillanter, les défigurer à vie. Une agressivité folle sans exutoire, c'est le pire. Être persuadé que tu n'as pas la moindre chance de t'en tirer est impossible de faire entendre ça. Des visites ? Il ne te reste rien. Une demi-heure après, impossible de te rappeler, sauf de façon mécanique, si ça a eu lieu aujourd'hui ou la semaine dernière. Le bain de la semaine, c'est la chance de se laisser aller, de reprendre des forces pour un bref instant, pour quelques heures. Sentir le temps et l'espace irrémédiablement imbriqués l'un dans l'autre et te sentir vaciller, piégé dans un labyrinthe de glace déformante. Et après, la terrible euphorie d'entendre quelque chose qui différencie le jour de la nuit acoustique. Sentir que maintenant le temps repart, le cerveau se dilate, la moelle épinière se remet en place pour des semaines. Et te sentir comme dépiauté, bourdonnement d'oreilles et au réveil, te sentir comme roué de coups. Et bouger au ralenti. Te sentir comme enfermé, dans une cuve plombée sous vide, et après choc, comme si une plaque de fer te tombait sur la tête. Comparaison, concepts qui te viennent à l'esprit, aux prises avec un fauve psychique. Tambourinage impitoyable, comme dans une fusée en pleine accélération, où les types sont écrasés sous la vitesse. La colonie pénitentiaire de Kafka. Le type sous une planche à clous et le grand 8 sans arrêt. Quant à la radio, ça permet un minimum de détente. Comme un coup de frein, on chute de 240 à 120.